Bonsoir, c'est les Apatrides Anonymes. Gros problème technique, comme ça arrive des fois, à choc. On va essayer de régler ça pour la prochaine émission. C'est l'édition du 6 octobre 2022 sur en balado ou en direct tous les deux jeudis ou Radio Victoria 107.9 FM. On salue nos auditeurs partout dans l'Ouest ici. Salut Marie-Ève aussi, qui est à la console actuellement, qui essaie de... voilà. Mathieu n'est pas là avec nous aujourd'hui. Il n'est pas en forme. Donc, les Apatrides Anonymes, c'est comme d'habitude votre rendez-vous bimensuel pour ce qu'on dit à chaque émission. Donc, vous pouvez écouter les autres balados si vous ne savez pas c'est quoi. Au menu cette semaine, on ne parlera pas des élections québécoises. On va essayer, si on a le temps, de parler d'actualité internationale des États-Unis, Cuba, France, Angleterre, Niger, Turquie. Pas sûr qu'on aura le temps. Des actualités plus locales aussi, avec des enjeux d'immigration. On aura peut-être de la bonne musique. Je voulais faire un spécial dédicace aux femmes, aux filles, aux femmes iraniennes qui se battent actuellement. On va dire que c'est fait. Et voilà, on commence pour de vrai l'émission dans après ces quelques notes de musique, l'édition du 6 octobre 2022 sur choc.ca dans un instant. Quelques nouvelles des États-Unis et de Cuba. On n'en entend pas beaucoup parler, mais on vit actuellement le plus grand exode de l'histoire récente de Cuba. Depuis un an, au moins 200 000 Cubains sont débarqués aux États-Unis. Je crois que c'est du jamais vu, et 200 000, c'est un chiffre qui est sous-estimé, puisque ça, c'est seulement le nombre de personnes qui ont été interceptées par les autorités frontalières américaines. Il y a eu un pic en avril dernier avec 35 000 interceptions de personnes migrantes cubaines à la frontière États-Unis-Mexique, auxquelles il faut ajouter 5 700 arrêtés en mer entre Cuba et la Floride, qui ont, ces 5 700 personnes-là ont été refoulées massivement vers Cuba. Donc, je disais, c'est 200 000 migrants cubains par an, mais c'est un nombre sous-estimé parce que ça inclut seulement les interceptions. En plus, on n'a pas le compte pour les autres pays où auraient pu se rendre les personnes cubaines, donc ceux qui seraient restés au Mexique ou qui seraient allés dans d'autres pays d'Amérique latine, dont surtout Nicaragua et Guyane française, puisque les deux pays n'exigent pas de visa pour les ressortissants cubains. Et à partir de là, peu importe le pays qui a été où les Cubains sont arrivés en premier, emprunter des routes ou se joindre à des caravanes vers les États-Unis. Et il y a aussi probablement des Cubains qui ont essayé ou qui ont réussi à rejoindre le Canada ou même l'Europe. Donc, le chiffre de 200 000 ne compte pas non plus les gens qui auraient pu disparaître pendant leur migration. Donc, vous voyez, on est où exactement avec la vague migratoire cubaine actuelle, 250 000, 300 000, on ne sait pas exactement. Comment expliquer ça? Bien, il y a plusieurs raisons. Il y a les restrictions économiques de Trump qui ont fait très mal à Cuba, dont l'interdiction de transfert de fonds entre particuliers à partir des États-Unis. Il y a eu la pandémie, évidemment, qui a mis à terre le secteur touristique qui est très important à Cuba, et l'industrie cubaine du tourisme est loin d'être relevée complètement aujourd'hui. Il y a eu une grosse inflation, donc rien à voir avec ce qu'on connaît ici, 71% en 2021, 35% jusqu'à maintenant en 2022. Et ça s'est accompagné de soulèvements populaires partout à travers Cuba qui ont été très fortement réprimés, des restrictions de droits et libertés par le gouvernement cubain, donc rien pour ralentir l'envie de fuir des Cubains et des Cubaines. La plupart des analystes s'entendent pour dire qu'il n'y a pas d'amélioration prévue à court moyen terme, puisque les sanctions américaines semblent là pour rester pour l'instant, à part quelques petites mesures d'atténuation. À suivre, c'est ce très important exode de Cubains. Si on va rapidement du côté des États-Unis, une genre de saga aussi effrayante qu'absurde, à peu près tout le monde en a entendu parler. Certains États du Sud, dont Texas, Floride et Arizona, qui ont décidé de neutraliser des avions et des autobus qu'on remplit de migrants, à qui on promet un peu n'importe quoi, pour les envoyer dans des États du Nord, des États toujours démocrates, qui se disent, qui ont un discours plus ouvert aux personnes migrantes. C'est genre de guéguerre républicain-démocrate. C'est des élections de mi-mandat bientôt aux États-Unis, donc c'est vraiment des manœuvres assez spectaculaires, mais surtout électoralistes. On choisit des lieux symboliques forts où débarquer les migrants, par exemple proche de la maison de Kamala Harris à Washington, dans des bastions démocrates à New York ou Chicago, ou dans des lieux de villégiature riches traditionnellement démocrates, donc où il y a zéro infrastructure d'accueil. Tout ça, évidemment, sans entente préalable avec les États ou les villes qui sont concernées. aucun suivi sur le logement, l'école, les soins. Donc, les migrants sont vraiment une arme électorale et traités comme la marchandise. C'est un mouvement initié par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Il dit qu'il a déjà envoyé 10 000 migrants vers le nord. Il y a d'autres États qui ont suivi. Je parlais de Floride, Arizona, tantôt. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Mais ça s'est fait avec l'aide financière et logistique du Texas. Donc, c'est vraiment une initiative texane, ce genre de déportation spectacle. Ça fait un peu penser à l'Europe où les États méditerranéens, Grèce, Italie, Espagne, se retrouvent avec une quantité disproportionnée de migrants par rapport aux pays plus au centre ou au nord de l'Europe. Cette situation-là force les membres de l'Union européenne à s'entendre sur une répartition des migrants via Dublin ou des accords bilatéraux entre deux États. Est-ce que ça va forcer le même genre de débat aux États-Unis? C'est difficile à dire. Disons que la conversation est engagée sur une base plutôt violente. Et je ne sais pas si ça va vraiment calmer les esprits xénophobes dans le Sud. On verra. On est toujours aux apatrides. Dans une minute, on revient avec Marie-Ève et des enjeux plus locaux en immigration.
Et oui, toujours aux apatrides anonymes. Marie-Ève, cette fois-ci, vous m'aurez reconnue. Je commence avec des bonnes nouvelles parce que ça en prend. D'abord, dans le dossier de Mamadou Konaté, vous savez, ce demandeur d'asile ivoirien qui avait été travailleur essentiel pendant la pandémie et qui devait être expulsé du Canada le 5 octobre. Eh bien, une fois encore, à la dernière minute, le gouvernement, mais la Cour fédérale, lui a accordé un sursis jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le bien fondé de la décision de l'Agence des services frontaliers, là, l'ASFC, ce qui pourrait prendre, selon son avocat, entre 8 et 12 mois. Selon le juge, et je le cite, là, dans les circonstances, la balance des inconvénients est en faveur du demandeur et M. Konaté a démontré qu'il subirait un préjudice irréparable s'il devait être envoyé du Canada dans l'immédiat. Donc, il faut rappeler que c'est quand même la troisième fois là que la Cour fédérale ordonne un sursis au renvoi de Mamadou Konaté. Il me semble que là, ce serait plus que temps que de mettre fin à son calvaire en régularisant son statut une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse. Une bonne nouvelle, autre bonne nouvelle dans un autre dossier. Kaba Keita, lui, un Guinéen qui est menacé d'expulsion, a lui aussi reçu un sursis de quelques jours de la SFC. Lui aussi, à la toute dernière minute, tellement que à la dernière minute, puisqu'il a pris la décision au moment où il quittait le restaurant Le Continental à Québec, où il travaille, pour prendre son vol, pour se rendre à Montréal pour prendre son vol. Il attend maintenant d'obtenir le permis de séjour temporaire pour ensuite voir le visa de travail. Et puisqu'il s'agit d'un cas moins connu, je reviens un peu plus longuement sur son cas à lui. Kaba Keita est arrivé au Canada en 2018 avec un statut de visiteur qui a fait changer un peu plus tard pour celui de réfugié parce que il craignait sa famille s'il rentrait en Guinée. Il a ensuite perdu ce statut cet été quand il a été admis lui-même à la commission du statut de réfugié que sa relation avec sa famille s'était améliorée. Et ensuite, c'est suite à ça qu'il a reçu un avis d'expulsion. Il est marié depuis 3 ans à une Guinéenne qui a obtenu sa résidence permanente depuis une dizaine d'années. Donc, on comprend là que Monsieur Keita veut pas rentrer dans son pays. Avec l'aide de son avocat et sa conjointe, ils ont donc déposé une demande de parrainage, mais les délais de traitement dépassaient la date d'expulsion fixée au 16 septembre. Monsieur Keita travaille au restaurant Le Continental depuis 2018. Il est tellement apprécié que son employeur, Mathieu Petitgroux, a décidé de l'appuyer dans ses démarches financièrement, mais aussi moralement. Il a même organisé une manifestation d'appui quelques jours avant la date de son expulsion. Et c'est aussi lui qui paie les frais là, reliés aux démarches juridiques dans son dossier. Il y a également le député Joël Lightbound, qui a envoyé une lettre au ministre Sean Fraser et Marco Mendicino pour leur demander de suspendre l'expulsion et d'accorder à M. Quétan un statut de séjour temporaire en attendant là, que la demande de parrainage soit traitée. On va évidemment, aux apatrides, continuer de vous tenir informés de ces deux dossiers-là qui sont pas finis, étant donné que les deux hommes risquent d'aller de sursis en sursis. Sinon, ben comme le disait un peu Simon en intro, on va quand même en parler un petit peu de la campagne électorale, parce que, ben oui, il y a eu des élections au Québec, hein, où, comme le disait à une époque heureusement révolue, l'ineffable Stephen Harper, alias Doug Vader, des élections.
C'est ça que j'allais dire.
On en a-tu cassé du sucre sur le dos de l'immigration pendant la campagne électorale? Puis en plus, ça continue puisque certains commentateurs expliquent la débâcle du Parti libéral de Dominique Anglade ailleurs qu'à Montréal par le fait qu'il serait le parti des anglophones et des immigrants et immigrantes. Ça ressemble dangereusement au vote ethnique et à l'argent de Parizeau. Heureusement, une autre époque révolue. Ou encore, au très actuel, malheureusement, 80% des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise de Jean Boulet. Mais moi, je pense que ça fait bien l'affaire de ces racistes qui s'assument pas que les anglophones et les personnes immigrantes soient majoritairement à Montréal. Au fond, ce qu'ils veulent, c'est que ça reste comme c'est là. Des anglophones, ils en veulent juste pour investir dans des troisièmes liens, des fonderies Horn, puis des nouveaux barrages dans les rivières, sur les rivières du Nord. Puis les immigrants et migrantes, ben ils en veulent juste d'un champ, chez eux comme femmes de ménage ou comme nounou, puis comme cheap labor pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Puis encore, parce que là, il faut qu'ils soient temporaires, puis surtout pas leurs voisins. Puis idéalement, il faudrait aussi construire un mur au chemin Roxham.
Oui, oui. Ça, c'était du M, ça.
Oui. En tout cas, à ce propos, je vous invite à lire l'article de Diamond Yao, qui est un peu plus posé que ce que je viens de vous dire, et qui s'intitule « Élections, les immigrants traités comme des marchandises ou des inquiétudes », qui a été publié par les camarades de Pivot le 29 septembre. Elle s'entretient avec Chedley Belkoja, qui est professeur spécialisé en immigration à l'Université Concordia. L'article tente de répondre à la question suivante. Derrière les chiffres, quelle est la réalité humaine des immigrants et immigrantes? Le chercheur croit qu'on a beaucoup instrumentalisé les nouvelles arrivantes dans les batailles de chiffres. Selon lui, on les réduit trop souvent à leur utilité économique et sociale sans tenir compte de leurs besoins et de leur réalité. Et comme exemple de la déconnexion des politiciens et politiciennes par rapport aux immigrants et immigrantes, il donne la proposition de Québec solidaire, parce que des fois aussi, eux aussi sont dans le champ, donc la proposition de donner 200$ aux familles immigrantes pour qu'elles les dépensent sur des activités culturelles québécoises. Je le cite, le chercheur, « Beaucoup de familles immigrantes ont d'autres défis dans la vie que d'aller au cinéma pour écouter un film québécois, surtout quand on leur dicte quels produits culturels elles doivent consommer. » Alors, je vous invite à aller lire ça sur le site de pivot.québec.
C'était bien senti, Marie-Ève. Merci pour cette dose d'énergie. On aurait pu en parler longtemps des élections parce que ça a vraiment été très sale comme campagne.
Et très pénible.
Et pénible. Et les quatre prochaines années risquent d'être assez pénibles. Puis nous, on est majoritaire en plus, donc c'est pas nous qui vont souffrir le plus. On va y aller en musique. Je vous reviens avec les explications sur la toune qu'on va écouter dans un petit instant.
La poussière s'accumule, ceux qui chantaient au milieu de la nuit. Quand la rivière trouvera son lit, on se contre chanceux d'être en vie. La, la. On sortira aveuglé de lumière et nous lèverons nos verres comme des soldats après la guerre. Et où sont mes amis, ceux qui chantaient au milieu de la nuit? Quand la rivière retrouvera son lit, on se contre-chanceux.
Bonjour aux apatrides, sur choc.ca, on entendait sur un sampling assez connu de Pierre Lapointe la pièce « Me semble que ça fait longtemps » de l'artiste Innu Matiu, M-A-T-I-U, qui vient de la communauté Maniutenam de la Côte-Nord, et il qualifie sa musique, attention, de mélange musical de Neil Young et ZZ Top, ou de folk bipolaire. La pièce qu'on écoutait, c'est sur son tout récent album « Tipachimushtunan » qui est au palmarès franco de choc en 7e position. On peut aussi explorer la musique de Matthew sur Nicamowin, la plateforme en ligne spécialisée en musiques autochtones, où il y a plein de belles découvertes à faire. C'est sur Nicamowin, je vais l'appeler Nikamowin.com. Redwashing, Banque canadienne. Donc, avant de passer le micro à Marie-Ève, Manche Méditerranée, il y a un rapport qui est sorti qui s'intitule Redwashing Extraction, Indigenous Relations at Canada's Big Five Banks. Il y a un article de Pivot.Québec qui en fait le résumé, qui résume le rapport. L'article s'intitule « Les banques canadiennes ne font que des actions symboliques pour la réconciliation ». Donc après greenwashing, qui est l'environnementalisme de façade, ou pinkwashing, qui sert des communautés gays, queer, etc., pour se donner une image progressiste. Le redwashing, c'est un nouveau terme pour moi, c'est le fait pour des entreprises de se présenter comme des alliés des communautés autochtones dans leur lutte, dans le processus de réconciliation, mais de se limiter à des campagnes de visibilité, à des déclarations sans réelle suite, ou encore de se limiter à des tout petits gestes qui dépassent à peine le symbole, sans que jamais ce soit accompagné d'actions vraiment concrètes ou significatives. Dans le rapport du Yellowhead Institute, rédigé par Robert Hull, on se penche sur les 5 grandes banques canadiennes et leur construction, pas médiatique, mais leur construction peut-être marketing qui est bien calculée, leur image bienveillante envers les Premières Nations, des Métis et des Inuits, alors qu'en même temps, toutes ces grandes banques-là continuent à financer abondamment des projets d'extraction de ressources, de déforestation, des pipelines, tous des projets qui nuisent beaucoup aux communautés, et ce, tout en évitant de faire, par exemple, du microcrédit à faible taux d'intérêt, ce qui pourrait permettre de financer toutes sortes d'initiatives locales, communautaires, des PME dans les communautés autochtones et inuites. Donc voilà, M. Hull, dans son rapport, dénonce l'hypocrisie et l'opacité des banques en donnant plusieurs exemples. C'est une très bonne recherche qui a été faite. Il met ça en parallèle avec les tout petits gestes un peu insignifiants qui servent à redorer l'image des banques. Donc, je vous donne un exemple. Des comités aviseurs qui sont créés, ils sont formés de personnes autochtones, des structures qui, dans les faits, sont seulement consultatives et qui servent à peu près à rien, autre que faire le nouveau terme, du redwashing. Donc, article de Pivot à lire, les banques canadiennes ne font que des actions symboliques pour la réconciliation. Ou si vous avez plus de temps, le rapport complet de M. Hull s'appelle Redwashing Extraction et c'est disponible en ligne sur Yellowhead Institute. www.radiocaravane.org. Quelques notes de musique et on revient tout de suite après avec mon Dieu, avec Marie-Ève, je crois. Non, avec encore moi, aux Apatrides. Quelques nouvelles africaines, plus précisément du Niger, le grand carrefour subsaharien pour les routes migratoires. On va parler de sa frontière avec l'Algérie. Ça va pas bien du tout sur la question des migrants entre l'Algérie et le Niger. L'Algérie procède à des refoulements massifs. Ça, on le savait déjà. Il y en a eu auparavant, mais la fréquence et l'ampleur des refoulements récents, c'est vraiment très inquiétant. Deux incidents majeurs en quelques semaines. Les chiffres exacts font peur. Un refoulement massif de 847 migrants début septembre. Et deux semaines plus tard, 669 personnes migrantes d'un seul coup retournées de force au Niger à partir de l'Algérie. Ce qui laisse penser qu'on serait peut-être juste au début d'une vague de refoulement massif de la part des autorités algériennes, vague qui pourrait se maintenir et même augmenter selon les observations de certaines ONG. Pardon, des fois je mange sur le terrain. Les migrants arrivent généralement à pied après avoir été transportés en camionnette à travers l'Algérie dans des conditions que vous pouvez imaginer. On les débarque près de la frontière nigérienne et quand ils arrivent au Niger, ils sont dans des états lamentables, complètement déshydratés. Ils viennent à peu près tous et toutes de pays subsahariens, Mali, Burkina, Sénégal, surtout des hommes. Quelques femmes et enfants, mais très peu, heureusement. Ces déportations sont le résultat de plusieurs facteurs qui sont connus depuis longtemps. Par exemple, quasi-absence de procédure d'asile en Algérie. Arrestations arbitraires et souvent violentes dans les rues, dans les villes, dans les villages. Un régime très autoritaire, un racisme anti-noir, paraît-il, très élevé en Algérie aussi. Peut-être un sujet à développer éventuellement. Le pire, c'est que les autorités justifient les déportations de masse par un accord sur l'immigration qui existe bel et bien entre Alger et Niamey, mais l'accord n'est pas à jour, il date de 2014. Il ne tient pas compte des réalités migratoires actuelles. Et les termes de l'accord, on s'en doute bien, ils ne sont pas respectés de toute façon, étant donné l'ampleur et la nature des déportations auxquelles on assiste depuis septembre. Ça inquiète tout le monde, Médecins du Monde, au commissariat, etc., qui devront, avec les partenaires, revoir toute l'organisation des ressources d'urgence dans la région. Mais c'est pas facile à coordonner du tout, puisque beaucoup de ces refoulements-là se font de manière officieuse, on sait pas trop par qui exactement, dans un désert immense, le long d'une frontière de 1000 km. Donc, question logistique, c'est un problème qui est déjà difficile à cerner à la base. Beaucoup de migrants qui sont refoulés vers le Niger sont épuisés après parfois des années sur la route, ont souvent... presque toujours perdu l'espoir de rejoindre un jour un pays riche, donc certains, plusieurs même, souhaitent rebrousser chemin et retourner dans le pays d'origine. Et il y a des programmes dits de retour volontaire qui existent pour ça. Et à ce niveau-là aussi, il y a toutes sortes de problèmes, des délais épouvantables, des passeurs aux morales douteuses, de la traite humaine. Bref, c'est tout un dossier, les routes migratoires dites du retour en Afrique, que personnellement, ou quelqu'un, un autre des apatrides peut-être, on va développer pour vous, parce que ça mérite qu'on en parle plus sérieusement dans une prochaine émission. Je regarde ma feuille de route, on est rendu à une toune que je vous présente maintenant. Excusez, on est juste deux, on court à droite et à gauche, donc ça va être Rokia Kone et Jackknife Lee, la pièce Kurumba. Rokia Kone est surnommée la Rose de Bamako, qui est la capitale du pays voisin du Niger, donc c'est une chanteuse malienne très connue en Afrique de l'Ouest, connue aussi ailleurs pour avoir fait partie du super groupe féministe Les Amazones d'Afrique, auquel avaient aussi collaboré entre autres Angélique Kidjo et Mariam Doumbia de Amadou et Mariam. L'album Bamanan est sorti en 2022, c'est une collaboration avec le producteur irlandais Jackknife Lee. C'est le tout premier album solo de Rokia Kone. De la pièce, je rappelle le titre, c'est Kurumba. Très beau clip de la pièce d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Au retour, ce sera Marie-Ève avec peut-être un débit un petit peu plus agréable que le mien, avec des actualités méditerranéennes et manchoises. On est toujours sur Choc, on écoute Rokia Kone.
Oui, ça nous met dans l'ambiance pour peut-être un peu pour parler de des routes migratoires maritimes, parce que bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on vous en a pas parlé. Je voulais vous parler de la Manche et de la Méditerranée, mais là, comme le temps file et qu'on a perdu un peu de temps là, avec nos problèmes techniques en début d'émission, je vais garder la Manche pour une prochaine fois, et puis je vais vous parler donc de la Méditerranée, où les traversées se poursuivent avec les opérations de secours et les drames humains qui vont avec. Fin septembre, il y a plus de 90 personnes qui sont mortes noyées après le naufrage de leur embarcation au large des côtes de la Syrie. Ce sont plus précisément 94 corps qui ont été retrouvés, ce qui en fait l'un des naufrages les plus meurtriers en Méditerranée orientale. Selon les autorités syriennes, il y a environ 150 personnes, principalement des Libanais, des réfugiés syriens palestiniens, qui se trouvaient à bord du petit bateau. Jusqu'à maintenant, il y a 14 personnes qui ont pu être secourues. Et bon, évidemment, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, survivantes, plusieurs personnes étant toujours portées disparues. L'armée libanaise, de son côté, a arrêté un passeur présumé qui serait impliqué dans ce drame-là. Il s'agit d'un Libanais qui aurait admis avoir organisé le voyage à partir du Liban et qui devait se terminer en Italie. D'ailleurs, le Liban devient de plus en plus un point de départ d'embarcation de migrants depuis le déclenchement en 2019 d'une grave crise économique et financière. Selon l'ONU, il y a au moins 38 bateaux qui transportant plus de 1500 personnes qui ont quitté ou tenté de quitter le Liban par la mer entre janvier et novembre 2021. Et en avril dernier, le naufrage d'un bateau de migrants surchargé qui était pourchassé par la marine libanaise au large de Tripoli avait fait des dizaines de morts et avait aussi causé beaucoup d'émoi au Liban. De nombreux passagers libanais du bateau de la mort, parce que bon, c'est comme ça que la presse libanaise a baptisé le bateau. Donc, de nombreux des passagers libanais sont originaires de régions pauvres du nord du pays, entre autres la ville de Tripoli, qui serait devenue une plaque tournante de l'immigration irrégulière en Méditerranée. La situation, en fait, serait telle que le HCR et l'agence de l'ONU responsable de l'aide aux réfugiés palestiniens ont toutes les deux appelé la communauté internationale à intervenir en amont pour améliorer les conditions des personnes qui sont forcées de fuir leur pays, ainsi que celles des communautés qui les accueillent, et aussi pour aider les Libanais, Libanaises et autres peuples de la région à surmonter le sentiment de désespoir qu'ils vivent. Il y a un article d'Info Migrants qui parle, par exemple, de Wissam, qui est le seul survivant de sa famille qui a péri dans le naufrage, c'est-à-dire sa femme et leurs 4 enfants. D'après son frère Abdallah, Wissam travaillait dans une entreprise de nettoyage pour un salaire de misère. Il n'arrivait plus à nourrir ses enfants ni à leur assurer une éducation. Il avait prévenu ses proches qu'il allait tenter l'immigration irrégulière avec sa famille, mais ils ne l'ont pas cru. Pour financer la traversée, Wissam avait vendu sa maison et son terrain pour 27 000 $. Même chose pour Mostafa, victime aussi du naufrage, un chauffeur de taxi qui, lui non plus, n'arrivait plus à subvenir aux besoins de sa famille. D'après son frère, Mostafa a payé entre 3 000 et 5 000 $ par personne pour la traversée. Pour pouvoir régler cette somme-là, il avait vendu sa voiture, emprunté de l'argent à ses frères et sa mère s'était même séparée là, de ses bijoux pour lui venir en aide. Mostafa ne rêvait pas d'obtenir une autre nationalité, mais tout simplement d'inscrire ses enfants à l'école et de les nourrir. Seule sa femme a survécu au naufrage. Parmi les cas qui ont été rapatriés depuis au Liban, depuis le naufrage, figurent aussi ceux de nombreuses victimes palestiniennes réfugiées, de quelques victimes palestiniennes réfugiées dans le pays, parce que si, au Liban, la population vit dans des conditions désastreuses, la situation est particulièrement grave pour les réfugiés. Il y a donc plus de 30 Palestiniens du camp de réfugiés de Nahr el-Bared, au nord de Tripoli, qui figurent parmi les victimes du naufrage. Par exemple, Mohamed, qui est infirmier, avait emprunté 10 000 $ pour ce trajet-là. Lui a survécu, mais sa femme et ses enfants sont morts. Il y a 4 autres personnes originaires du camp de Shatila à Beyrouth qui sont également décédées. Il faut savoir que dans le camp de Shatila, il y a 18 000 personnes réparties sur 1,5 km² qui arrivent à peine à survivre d'après le recensement du HCR mené en 2016. C'est un camp qui avait été construit en 1949 pour accueillir initialement 3 000 réfugiés fuyant Israël. Donc, regardez, prévu pour 3 000, il y a 18 000 personnes qui y vivent maintenant. Et donc, les réfugiés palestiniens côtoient aujourd'hui des ressortissantes syriennes, des Libanais et Libanaises, avec tout ça avec très peu de ressources. Je sais que tous ces détails-là peuvent sembler peut-être futiles ou superflus, mais et c'est pas pour faire du human interest. Toutes ces morts-là ne sont pas seulement des corps, ce sont des personnes qui avaient des vies, des familles, des proches, qui avaient des aspirations, et c'est donc ma bien maigre tentative de leur redonner un peu de dignité.
Bonjour aux apatrides anonymes sur choc.ca. Quelques brèves françaises présentées par moi-même et non par Marie-Ève cette fois-ci. On va aller à Calais. Ça va compléter nos actualités internationales pour cette semaine. On vous a souvent parlé de la ville à Calais qui renouvelle constamment des décrets pour nuire à la distribution de nourriture aux personnes migrantes. On interdit telle heure, telle heure, tel jour, on interdit telle partie du centre-ville ou tel quartier, ce qui donne lieu à toutes sortes de tours de passe-passe de la part des associations pour contourner les arrêtés municipaux et empêcher que les migrants meurent de faim ou soient obligés de voler pour se nourrir, puisque les aides gouvernementales sont jugées très insuffisantes pour la quantité de personnes migrantes qui se trouvent dans la région. Bon, là, il y a un tribunal administratif qui a statué fin septembre que ces interdits-là sont disproportionnés. Et dans le jugement, on demande l'annulation complète de l'interdiction de distribuer des repas parce que, et je cite, « ça a pour effet de compliquer l'accès pour ces populations précaires à des biens de première nécessité ». Donc, je rappelle qu'on parle de nourriture.
Oui, c'est ça.
C'est, on ne parle pas de même, j'allais dire, de jouets pour enfants, mais ce serait utile.
Ben, je pense que ce serait utile.
Effectivement. Bref, il y a un recours qui avait été initié par, entre autres, Médecins du Monde, Human Rights Watch et plusieurs associations locales. On verra par la suite. Ça, c'est un jugement préliminaire qui vient d'être rendu, mais c'est quand même très clair et cinglant. La décision finale viendra dans quelques semaines. On vous en reparlera, mais pour l'instant, ça pourrait faire que la ville de Calais a suspendu les interdictions de distribution de nourriture aux migrants. Ça n'empêche pas la ville de Calais de continuer à expérimenter toutes sortes d'aménagements anti-migrants. Vous voyez, ici à Montréal, on connaît bien les dispositifs anti-itinérants, des bancs pleins d'accoudoirs, des pics sur des surfaces planes, la diffusion de musique classique. Mais à Calais, on vous avait déjà parlé de buts artificiels, de fossés, de douves, de presque de pont-levis avec des crocodiles. Ben là, pour empêcher la réinstallation d'un campement de migrants syriens qui venait d'être démantelé par la police, la ville a fait installer des grosses roches, 800 tonnes de rochers avec une tentative de petit aménagement paysager, là, quelques graminées pour rendre ça cute et nous faire croire que c'est une opération de verdissement. C'est vraiment loufoque, là. Allez voir les photos en ligne. Si vous mettez comme mot-clé Calais, migrant, roche, vous allez voir cette genre d'espace, espèce d'alignement presque artistique de gros cailloux. Et il y a un gros panneau publicitaire sur le terrain. La compagnie qui gère le panneau publicitaire peut plus y accéder. Hein, comme quoi, il y a toujours des victimes collatérales. Paraît-il que cette technique anti-migrant porte même un nom, l'enrochement. Et c'est pas nouveau à Calais. Il y en a déjà eu. Là où on avait fait de la distribution de nourriture, on avait mis des grosses roches. Mais là, c'est la première fois qu'on C'est la plus grosse, en fait, opération d'arrochement qu'il y a jusqu'à maintenant. Prochaine méthode, des sables mouvants artificiels, des geysers, des gros ventilateurs, des coulées de lave. Je suis sûr que les autorités de Calais sont déjà en train de réfléchir à des nouvelles idées sur comment dépenser des fortunes pour emmerder les migrants plutôt que pour les loger ou les nourrir. Et malheureusement, les associations qui venaient en aide aux migrants qui étaient sur le site ont perdu la trace de la plupart d'entre eux. Donc voilà, ça va être la conclusion de l'émission dans quelques secondes après notre indicatif habituel musical. Eh oui, j'ai l'impression que l'émission vient de commencer et on doit déjà la terminer. C'était l'émission marathon la plus échevelée de notre histoire. On se reprend la prochaine fois. Donc, c'était l'édition du 6 octobre 2022 des Apatrides Anonymes. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On vous laisse nos coordonnées. Donc, pour nous écrire, Apatrides Anonymes, tout au pluriel, à resist.ca. On peut nous écrire via notre page Facebook où on met plein de liens complémentaires. Évidemment, il y a la page de notre émission sur choc.ca où tous nos balados sont disponibles en rattrapage. Les balados sont aussi disponibles dans notre site web apatridesanonymes.info. Et on peut être aussi écouté sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Merci Marie-Ève, quelle efficacité, quelle distance du retournement de situation aussi.
L'avoir par la peau des fesses, je pense que c'est à propos aujourd'hui.
C'était du sport. En tout cas, on devrait se retrouver peut-être dans les meilleures conditions, les trois, avec Mathieu, lors de la prochaine émission, dans seulement 4 semaines, parce que après les maladies, il y a des vacances pour tout le monde aussi. Donc ça nous mène, je crois, au 3 novembre. On va se laisser. Merci Marie-Ève. Bonne semaine, bonnes vacances aussi, ça va être bien apprécié.
Merci j'imagine. À toi Simon, on a relevé le défi.
Ouais, la bière va être bien méritée. On se laisse sans musique avec le légendaire groupe britanno-hollandais The Legendary Pink Dots, la pièce This is the Museum, c'est de leur tout récent album The Museum of Human Happiness. C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca. Merci encore Marie-Ève, salut tout le monde qui nous écoute et prenez bien soin de vous.
Yes.